Salut à tous, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 13 intitulé « Qui sont les acheteurs de Bitcoin ?» On va s'intéresser à ces personnes et on va aussi essayer de voir quelle est la meilleure stratégie pour acheter et pour accumuler du Bitcoin. Encore une fois, je le rappelle, aucun conseil financier dans cet épisode, on parle juste d'un sujet passionnant qui est le Bitcoin. Je donne mon avis personnel et ceci est avant tout du divertissement. Donc faites bien vos propres recherches et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en bas de cet épisode. Allez, c'est parti. Alors, il y a plusieurs types d'acheteurs de Bitcoin. Historiquement, la première catégorie de personnes à s'intéresser au Bitcoin, ça a été les cypherpunks, c'est-à-dire les mecs, grosso modo, qui faisaient de la cryptographie, parfois d'ailleurs pour le compte de l'armée. D'ailleurs, le fondateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, était probablement lui-même, on suppose, un cypherpunk. Enfin, on peut le penser. Donc, pour faire court, ce sont des spécialistes en cryptographie, amateurs ou professionnels, qui ont compris très tôt que la confidentialité serait un enjeu capital dans le cyberespace. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes à s'être intéressées historiquement au Bitcoin, ça a sans doute été les anarchistes et les libertariens. Là, on a affaire à des personnes qui n'ont pas forcément de compétences poussées en cryptographie, mais qui achètent du Bitcoin par adhésion idéologique au nom de la défense de leur liberté individuelle face à la toute-puissance des gouvernements et des grandes banques. Dans ces deux premières catégories, on a des gens qui sont pour la plupart ce qu'on appelle des maximalistes. Alors, les maximalistes savent qu'on peut parfois gagner de l'argent en spéculant sur les autres crypto-monnaies existantes. On peut en théorie, en effet, rentrer tout au début sur une crypto et puis prendre la vague, puis tout revendre au bon moment, prendre un x10, prendre une grosse plus-value et repartir. Ça, c'est ce dont rêveraient tous les traders. Mais les maximalistes ne sont pas des traders. Les maximalistes restent fidèles quasiment à 100% au Bitcoin. Ils font ce qu'on appelle du HODL, c'est-à-dire qu'ils ne revendent jamais leur Bitcoin. Moi, personnellement, je reconnais que j'ai un fort biais maximaliste qui va influencer mon jugement et ma vision des choses dans les différents épisodes que je peux faire. Mais si telle ou telle crypto est plus rapide ou peut gérer, par exemple, plus de transactions à la seconde que le Bitcoin, le maximaliste va toujours préférer la robustesse, la solidité, l'indestructibilité, l'incensurabilité, la décentralisation du Bitcoin aux autres cryptos. Les maximalistes pensent que le Bitcoin peut résoudre des problèmes au-delà de la seule sphère monétaire dans le monde, et ils pensent que le Bitcoin peut vraiment aider à rendre le monde meilleur. Vous avez quelqu'un comme Jack Dorsey, que je classe dans cette catégorie des maximalistes. C'est le fondateur historique de Twitter, mais il a quitté Twitter depuis 1 ou 2 ans pour monter une nouvelle société qui s'appelle Square et qui est spécialisée dans le paiement mobile et le paiement électronique. C'est quelqu'un qui a déclaré que désormais, il allait travailler exclusivement sur le Bitcoin parce que le Bitcoin était actuellement à l'échelle de sa vie et pour l'humanité la chose la plus importante sur laquelle on pouvait travailler, tout simplement. Donc voilà, juste pour vous montrer que le maximaliste place toujours le Bitcoin au-dessus de toutes les autres crypto-monnaies et même parfois le maximaliste devient ce qu'on appelle un toxique maximaliste et il se fait alors un devoir de mépriser et de critiquer toutes les autres cryptos qu'il juge inférieur. Bon voilà, ça c'était pour vous présenter rapidement les puristes. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à accumuler des euros ou des dollars, mais ce sont des gens qui cherchent à accumuler du Bitcoin. Mais aujourd'hui, parmi tous les gens qui achètent du Bitcoin, on trouve aussi des gens avec un profil moins idéologique, et je dirais avec un profil plus financier, dans le sens de la finance traditionnelle. On va dire qu'ils ont un profil d'investisseur plus classique, donc ces gens-là ont souvent de bonnes connaissances en macroéconomie. Ils investissent déjà dans la bourse. Ce sont des gens qui investissent à moyen terme pour protéger leur capital de l'inflation et pour protéger leur argent d'un affaiblissement de la monnaie. Alors, il y a différents sous-profils dans cette catégorie selon que l'investisseur est plus ou moins expérimenté et plus ou moins agressif. Il y a des investisseurs qui affectionnent les valeurs techno. C'est par exemple tous ceux qui ont acheté du Google ou du Amazon en bourse il y a 10 ans. Parce qu'ils pensaient que ces valeurs allaient monter et qui aujourd'hui achètent du Bitcoin pour les mêmes raisons, avec le même objectif, celui de revendre en faisant une plus-value. Cette catégorie de personnes est très différente du maximaliste. Ce que recherche le maximaliste, comme je l'ai dit, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible, tandis que ce que l'investisseur classique recherche, lui, c'est d'accumuler le plus d'euros ou de dollars possible. Et ça, sur le fond, ça fait une différence très forte. Le maximaliste a des convictions sur le futur du Bitcoin et sur le futur de l'économie mondiale. Le maximaliste est persuadé que le Bitcoin va supplanter un jour le dollar et qu'il deviendra la prochaine monnaie de réserve mondiale. Bon, et puis il y a aussi une autre catégorie d'acheteurs dont il faut parler, et ce sont bien sûr les traders. Le vrai trader, lui, sur le fond, il ne s'intéresse pas à ce qu'il achète ou à ce qu'il revend. Lui, il ne fait pas ses choix en fonction de ses convictions. Il ne fait pas ses choix sur le long terme, que ce soit de la crypto ou que ce soit une société cotée en bourse, peu importe, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est faire de la plus-value. C'est revendre plus cher. Et au bon moment, c'est revendre quand ses indicateurs graphiques lui laissent à penser que c'est le bon moment. Voilà, il n'a pas d'autre objectif que le profit. Donc, les traders passent leur journée à acheter et à revendre tout un tas de crypto, tout un tas de shitcoin et tout un tas de produits financiers, souvent avec du levier en x5, en x10, etc. Eux, ils essayent de faire mieux que le Bitcoin en permanence, ils essayent de battre le cours du Bitcoin. Et souvent, et bien évidemment, c'est une activité, comme vous pouvez l'imaginer, très stressante. D'ailleurs, c'est tellement stressant qu'il faut bien reconnaître que la plupart des gens normaux ne sont pas câblés pour faire ça. Parce que déjà, c'est très dur de battre le marché. C'est aussi super anxiogène. Et d'ailleurs, en ce moment, quand vous vous trouvez en période de bear market, c'est-à-dire en plein marché baissier, c'est très compliqué. En fait, quand tout baisse et quand il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché, comme en ce moment, le trading est probablement le meilleur moyen de perdre de l'argent. Donc dans le contexte actuel, vous pouvez réellement perdre vos économies très rapidement et vous retrouver peut-être équipier chez McDo du jour au lendemain. Donc en gros, les traders regardent le cours des crypto-monnaies toutes les 5 minutes. Et franchement, personnellement, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que déjà, dans le monde des cryptos, on trade 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup d'échanges. Il y a des centaines de cryptos. Il y a des robots, les trading bots. Et donc tout ça, ça évolue très vite, ça génère beaucoup de volatilité et honnêtement, c'est juste humainement impossible de tout suivre et de tout surveiller. Donc franchement, pour être tranquille, pour bien dormir la nuit, le conseil qu'on entend souvent, c'est d'acheter en DCA, c'est-à-dire en Dollar Cost Averaging. Ce qui consiste en fait à acheter un petit peu tous les mois de façon régulière. Statistiquement d'ailleurs, il paraît que c'est le 25 du mois que le prix du Bitcoin est le plus bas en moyenne. Toujours est-il que quand tu achètes en DCA, ça peut être 50 balles ou 100 balles par mois, il n'y a aucun stress. Et si de temps en temps, il y a une grosse baisse qui se produit sur le marché, tu buy the dip, c'est-à-dire que tu achètes quand le prix a bien baissé, tu achètes le creux, tu achètes moins cher, tu achètes en solde. Et surtout, le plus important, tu hold. Ça veut dire que tu conserves le plus longtemps possible ce que tu as acheté. Et avec cette méthode, tout roule. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que quand un trader vend ses bitcoins, il se fait punir par le marché. Parce qu'en réalité, c'est très difficile de prévoir à l'avance le cours du bitcoin, même si tu es très fort en analyse graphique. Franchement, c'est très dur de revendre ou d'acheter au bon moment. Et là, il faut que je vous parle d'un trader qui s'appelle Rahul Pal. C'est quelqu'un qui a travaillé pour la banque d'investissement Goldman Sachs. Et aujourd'hui, c'est un trader et un investisseur assez connu dans le monde des cryptos, sur YouTube notamment. C'est quelqu'un qui a acheté ses premiers bitcoins très tôt en 2013, donc très très tôt, hyper tôt. Ensuite, il a tout revendu, notamment en 2017 en faisant un x10. Juste après qu'il ait tout vendu, le bitcoin refait un x10, mais il avait vendu ses positions, puis le bitcoin crash, il en rachète, etc. etc. Ensuite arrive 2020, il réinvestit alors massivement en plein Covid, il refait une super opération. Voilà. Puis un jour, il se repenche sur tous les trades qu'il a fait. Soudain, de son propre aveu, hein, c'est lui qui le dit, soudain, il réalise qu'il n'est pas un génie, mais qu'il a été un idiot. Il réalise que s'il avait maintenu son investissement initial sans jamais rien vendre, sans jamais rien faire, il aurait gagné 5 fois plus que ce qu'il a gagné en tradant. Ensuite, il réalise que s'il avait réinvesti les mêmes sommes, mais au bon moment, c'est-à-dire à chaque fois quand le Bitcoin était au plus bas, il aurait fait 25 fois plus de profit que ce qu'il a fait. Et donc, tout ça pour vous dire que le hold sur le long terme, très souvent, C'est vraiment la meilleure stratégie. Pour te donner une autre image, si on transpose ça à l'immobilier, si tu possèdes une maison ou un appartement, tu ne vas pas regarder le prix du mètre carré tous les jours. Ça n'a aucun sens, tout simplement parce que tu as acheté ta maison ou ton appartement pour du long terme. Donc il faut essayer de voir un peu le Bitcoin sous cet angle, je pense. Le Bitcoin ne peut pas progresser constamment en ligne droite. Aucun actif ne progresse en ligne droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on est en train de changer de paradigme. Donc, c'est un peu comme en navigation, quand un bateau traverse un détroit, là où deux mers différentes se rencontrent, bah, ça secoue, ça fait des vagues, ça tangue, et on n'y peut rien. Donc voilà, quand on regroupe toutes ces catégories d'acheteurs de Bitcoin, a priori, on arrive à peu près une fourchette allant de 100 à 150 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est une population plutôt jeune, plutôt éduquée et plutôt intelligente. Et il y a des études très sérieuses qui nous prédisent qu'on devrait arriver à 1 milliard d'utilisateurs d'ici 10 ans. Ça, c'est si on suit une courbe d'adoption comparable à l'adoption de l'Internet. Bon, c'est une hypothèse probable, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'acté. Il n'y a rien de certain pour le moment. Voilà. Ensuite, il y a une dernière catégorie composée avec des gens qui, eux, ne comprendront peut-être jamais rien au Bitcoin. Alors, je veux stigmatiser personne, je veux montrer personne du doigt, mais il y a des gens qui préfèrent être pris en charge par le gouvernement, ils préfèrent suivre, on va dire, la masse ou rester dans la norme. Ou alors, c'est des gens qui ont une forte aversion au risque, qui préfèrent rester dans un monde de divertissement. C'est pas qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est juste que ça leur passe à côté, ça bloque quelque part, ou c'est juste que ça ne les intéresse pas. Par exemple, le gars à la CGT, le vieux de la vieille, ou alors à l'opposé, vous avez des profils hyper scolaires, hyper corporate, c'est-à-dire les profils académiques, dépendant à la bureaucratie ou à la hiérarchie, genre profil Bac plus 10, MBA, vous voyez. Eux non plus, on est, avec le Bitcoin, on est trop hors cursus pour eux. C'est trop out of the box, vous voyez. Bon, voilà, je généralise un petit peu, j'exagère un peu. Il faut quand même être indulgent parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de critiques et beaucoup de dénigrements qui sont faits dans les médias grand public vis-à-vis du Bitcoin. Et du coup, ça décourage pas mal le grand public, ça décourage les gens à poursuivre leurs recherches sur ce sujet. Donc, ils vont rester sur des idées simplistes et préconçues, sur des choses qu'ils ont entendues à la radio ou vues à la télé. Et c'est dommage pour eux. Il y a aussi tous ceux qui ne trouvent pas le temps de se pencher sur ces questions dans leur vie. Et c'est vrai qu'une femme célibataire qui élève seule 3 gamins, elle a de vraies circonstances atténuantes. Pareillement, un gars qui travaille dans le BTP, qui est toute la journée sur un chantier, quand il rentre le soir, il est fatigué physiquement et il n'a plus forcément l'énergie pour se pencher sur ce genre de sujet. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont aussi des gros soucis dans leur vie, qui vivent au jour le jour. Et il faut reconnaître aussi parfois qu'on est sur des sujets complexes et on ne peut pas reprocher aux gens de faire certains choix. Il faut tout pour faire un monde. Ces gens ont certainement d'autres talents formidables dans d'autres disciplines. Donc c'est comme ça, c'est la vie quoi. Donc voilà les amis, c'est déjà fini, j'arrête là-dessus. C'était un petit épisode assez court aujourd'hui. À vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez ou dans quelle catégorie vous voulez vous situer au cours des prochaines années. Je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas non plus de jeter un petit coup d'œil au lien dans la description en dessous de cet épisode. Merci à toutes et à tous. Ciao les boss.